Vous écoutez France Culture.
Bonjour à tous. Les Nouveaux Chemins contemplent tous les jours le monochrome bariolé de la pensée. En compagnie de Jean-Daniel Loup, Marianne Chassor, Jules Salomon et Géraldine Mosna-Savoie, à la lecture poussinienne des textes cette semaine, Georges Kless, à la réalisation de Rubens Sonore, Nicolas Berger, avec aujourd'hui à la prise de son pictural, Ludovic Auger. À 10h50, vous retrouverez François Nudelmann pour le journal de la philosophie. François s'entretiendra aujourd'hui avec Bruno Carsanti à propos de son dernier livre, Moïse et l'idée de peuple, la vérité historique selon Freud, paru aux éditions du Cerf. Je voudrais peindre comme un aveugle qui ferait une face à tâtons. La couleur n'est pas un cosmétique, elle ne cache ni ne recouvre rien. La matière peut être son support, mais le rouge subsiste même lorsqu'on ferme les yeux. Dans la peinture, la couleur sur la toile ne reproduit pas quelque chose, elle offre une nouvelle image de ce qui, avant elle, n'était pas. C'est un phare, sans visage à masquer. Alors comment laisser être la peinture, être réceptif au sens qui émane d'un petit pan de mur jaune, sans la réduire au mode d'expression du langage verbal? La peinture est éloquente, mais elle parle sans les mots et le sens des couleurs. Avons-nous les moyens de le comprendre? Après Claude Romano sur la perception de la couleur lundi et Magali Besson face au déchirement de la couleur de peau hier, j'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir la philosophe Jacqueline Lichtenstein pour le troisième temps de cette semaine, tout en couleur.
Vous n'entendez pas la forêt? Le bruit, le murmure, tout le temps. C'est comme la mer. C'est comme le bruit fossile de l'univers. C'est le bruit des origines. La forêt est... Et la mer mêlée, c'est ça la peinture. Vous pensez pas?
Non, je pense pas. C'est pas ça, pas pour moi. Pour moi, la peinture, c'est le trait. Couleur qui tranche. Un jaune cadmium, un rouge éclatant. Quelque chose de net, de fini.
Oui. Moi, chaque fois que j'ai eu le sentiment de faire une toile achevée, bien au point, je me suis dit qu'il fallait encore un effort, essayer d'aller encore un peu plus loin, courir le risque.
Alors l'artiste trouve que c'est bon et le résiste à faire un bond dans les eaux calmes de son chef-d'œuvre. Mais une palme en forme de pieuvre accroche sa jambe. Au secours, à moi, il croit qu'il flambe, mais il se noie. Voyez, il coule, meurt tout au fond, et l'eau s'enroule, devient plafond. Seul sur la rive, un chevalet accueille une grive qui disparaît. Là sur la berge, et même plus loin, la place est vierge de tout témoin, sauf moi sans doute, qui avait tout vu sur cette route du temps perdu, perdu dans l'indre du souvenir, qui pour la peindre faisait mourir. Cela nous prouve qu'avec lenteur, l'œuvre recouvre son créateur. Cela nous prouve qu'avec lenteur, l'œuvre recouvre son créateur.
Bonjour Jacqueline Lichtenstein.
Bonjour.
Bienvenue sur le Nouveau Chemin de la Connaissance. Vous êtes philosophe, spécialiste de philosophie de l'art et d'esthétique. Et c'est à vous que l'on doit deux ouvrages notamment, La couleur éloquente, paru chez Flammarion, disponible en champ Flammarion, également La tâche aveugle, qu'on trouve chez Gallimard. lorsque Charles Trenet chante le peintre perdu qui se fait happer par son propre tableau. Il, comme souvent chez Trenet d'ailleurs, la chanson commence de manière joyeuse et puis se termine en drame. Il insiste sur cette dimension, disons, dangereuse, le risque que prend le peintre en peignant, risque qui est pointé par le personnage de Fraenhofer dans l'extrait de La Belle Noiseuse que l'on vient d'entendre, le film de Jacques Rivette, qui est une adaptation du chef-d'œuvre inconnu de Balzac, où Piccoli, qui joue Fraenhofer, hein, donc insiste sur ce risque de la peinture, faisant la contradiction à son interlocuteur Nicolas, qui lui affirme que la peinture, pour lui, c'est tranché, c'est un trait qui est net. On a là deux conceptions opposées de la peinture, d'un côté peut-être plutôt le dessin, et de l'autre le risque de la couleur.
Oui, tout à fait. Dans le roman, la nouvelle de Balzac, le chef-d'œuvre inconnu dont est adaptée La Belle Noiseuse, tourne autour de cette opposition, puisque Nicolas Poussin, c'est une fiction historique, comme souvent chez Balzac, et Fraenhofer est ce peintre qui fait un tableau. Et à la fin, quand il est vu par Pourbu et Poussin, il regarde ce tableau et en fait, il ne voit rien sinon, dit Balzac, une muraille de couleurs, hein, c'est l'expression qu'il emploie. Une muraille de couleurs, moi j'ai toujours pensé que ça faisait penser à un tableau de Pollock ou de Kooning, enfin vraiment, d'où émerge un tout petit bout de pied. Hein. Et l'un des deux personnages, je crois que c'est Pourbu, dit « Ah, il y a une femme, regarde bien, il y a une femme là-dessous ». Il y a une femme là-dessous. Alors, effectivement, c'est le risque de la couleur. Fraenhofer, à la fin, d'ailleurs, devient fou, met le feu à son atelier. C'est intéressant, d'ailleurs, que vous ayez commencé par lire la citation de Picasso. Je voudrais peindre comme un aveugle qui ferait une face à tâtons, puisque Picasso a acheté son atelier à l'adresse qui est donnée par Balzac pour l'atelier de Fraenhofer, où Fraenhofer peint le chef-d'œuvre inconnu. Hein, donc là,
comme quoi tout fait lien, alors que c'était pas volontaire.
Mais il le savait, puisqu'il a illustré le chef-d'œuvre inconnu, Picasso. Hein, donc voilà. Et donc, effectivement, par rapport à cette question de la couleur a toujours été présentée comme le risque de la peinture. D'ailleurs, c'est très intéressant, je n'avais pas prêté attention à cela, c'est que Piccoli... Il fait une comparaison avec le bruit tout de suite. Hein. C'est-à-dire que la couleur, pour lui, c'est le bruit. Hein. Et le bruit, on sait très bien, ça peut tout de suite tourner à la cacophonie, empêcher d'entendre, empêcher de voir, empêcher de distinguer. Et que d'un côté, il y a quelqu'un, donc Nicolas, qui dit que pour lui, la couleur sont des choses très distinctes. Le rouge, le jaune, etc. Et l'autre, Piccoli, Fraenhofer, pour qui la couleur, c'est au contraire, va du côté de la muraille, du magma, du bruit.
Mais aussi de la nature. Et c'est ça qui est intéressant, puisqu'il dit pour moi, la couleur, c'est la forêt et la mer mêlées.
Mêlées, c'est l'origine. Hein, c'est l'origine. Mais c'est-à-dire quelque chose, c'est un ensemble, c'est quelque chose où, au fond, les éléments ne sont pas encore ou plus distingués. C'est-à-dire c'est avant ou après la distinction. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que ce terme de risque que vous avez employé, il caractérise vraiment bien ce que l'on a toujours dit à propos de la couleur. Et pour venir à Fraenhofer et à Poussin, à la Belle Noiseuse, c'est vrai que le texte de Balzac s'inscrit au fond c'est une fiction littéraire, mais qui reprend cette opposition entre le dessin et la couleur qui existe, disons en gros depuis la Renaissance, et où un peintre, Poussin, incarne dans le roman incarne le dessin et Fraenhofer incarne la couleur. Il se trouve que dans l'histoire réelle, Poussin était celui qui était mis en avant par les défenseurs du dessin.
Voilà, rappelons cette polémique qui est effectivement historiquement datée, hein, puisque vous l'avez dit, à la Renaissance, Poussin prend le parti du dessin, de la narration. Un tableau, pour être réussi, doit raconter quelque chose. Un de ses détracteurs, notamment Rubens, lui au contraire, va montrer que l'importance d'un tableau, pour qu'un tableau soit réussi, il doit être non seulement coloré, mais il doit accorder, éveiller l'attention du spectateur à ce que dit, ce qu'exprime la peinture. C'est une opposition frontale entre d'un côté une forme de langage qui serait construit, presque sémantique, et de l'autre la couleur qui ferait sens sans passer par le langage. C'est là où ça devient très intéressant.
Alors, c'est moins, pardon, c'est moins Poussin et Rubens que les défenseurs de Poussin et les défenseurs de Rubens, c'est-à-dire ceux que l'on a appelés les poussinistes et les rubénistes au XVIIe siècle. C'est beaucoup plus un conflit théorique qu'un conflit pictural. Je veux dire que pour les peintres, il n'y a pas la distinction, bien sûr qu'elle se joue, mais elle est beaucoup moins tranchée que chez les théoriciens qui, au contraire, et surtout chez les théoriciens et les philosophes qui veulent des distinctions tranchées. L'exemple le plus frappant, c'est celui de Rubens, qui est le maître de la couleur. Or, si on regarde, c'est le plus grand dessinateur qui existe, hein, et notamment ses dessins à l'huile, ses dessins à la couleur sont absolument extraordinaires. Alors, c'est effectivement une distinction, pour juste faire un tout petit point d'histoire, c'est une distinction qui est théorisée à la Renaissance en Italie entre l'opposition entre disegno colore, les maîtres du dessin, les maîtres de la couleur, disegno étant le maître du dessin étant Raphaël, et le maître de la couleur étant Titien, donc c'est Florence ou Rome et Venise, avec des enjeux sociaux, philosophiques, picturaux, puisque au fond, ce que les défenseurs du dessin, ceux qui défendent ce que Vasari appelait il primato del disegno, ce que les défenseurs du dessin reprochent à ceux qui mettent en avant le coloris, c'est de porter atteinte et de mettre en danger le statut de la peinture qui avait accédé depuis peu de temps à la dignité d'une activité noble. Hein. Et donc, il reprochait aux défenseurs du coloris, au fond, de vouloir ravaler le peintre au rang de teinturier, alors que tout le travail avait consisté, tout l'effort de la Renaissance avait consisté, des artistes de la Renaissance avaient consisté à montrer qu'un peintre n'est pas un teinturier, n'est pas un fabricant, c'est l'idée moderne, au fond, d'artiste qui apparaît à ce moment-là. Et donc, je crois qu'on ne peut pas séparer, si vous voulez, ce débat de cet enjeu absolument fondamental. Et c'est un enjeu qui est inscrit dans la langue, puisque disegno en italien désigne, oui, je dis désigne, à la fois le contour et en même temps le projet intellectuel, l'intention, c'est-à-dire une activité mentale, intellectuelle, et une activité matérielle. Et ce qui est intéressant, c'est que le mot « dessin » en français, qui est une traduction de « disegno », s'est écrit avec un « e » jusqu'au XVIIIe siècle, jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, c'est-à-dire qu'on a toujours pensé le dessin, contour, comme un dessin, projet ou intellectuel. Et donc, on comprend à partir de là que la couleur soit perçue comme un danger par rapport à ce statut de la peinture comme causa mentale, et comme disait Léonard de Vinci, c'est comme ça qu'on a attaqué les défenseurs de la couleur. Et ce débat a été repris au XVIIe siècle dans le cadre de l'Académie de peinture, l'Académie royale de peinture et de sculpture, entre ceux qu'on a appelés les poussinistes et les rubénistes.
Mais alors restons quand même sur cette appellation, de cette connotation de la couleur comme étant dangereuse, puisqu'elle ne va pas de soi. Si les poussinistes redoutent que la peinture retombe comme dans un degré, disons, inférieur des arts à cause de la peinture, c'est qu'ils eux-mêmes sont détenteurs d'une conception de la peinture bien particulière qui remonte jusqu'à Platon, où la peinture ne serait qu'apparence trompeuse et donc dangereuse. Dangereuse pourquoi ? Parce qu'elle nous éloigne de la vérité. C'est ça qu'il y a en jeu comme conception qui s'affronte derrière ces discussions autour de la couleur. C'est d'un côté faire de la couleur ce qui ne fait que pointer l'écart entre l'œuvre et la réalité, et donc selon le critère de vérité, l'œuvre d'art est un moindre être, elle nous éloigne de la vérité. Or, pour les détenteurs et les défenseurs de la couleur, au contraire, celle-ci est à mettre en avant, puisqu'elle n'est plus considérée selon le critère de la vérité, mais selon celui du sens, voire du plaisir.
Alors, mais en même temps, c'est, je crois, comme toujours, un peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire que la question du plaisir, elle est présente, essentielle chez tout le monde, les défenseurs du dessin comme les défenseurs du coloris, en Italie comme en France. Simplement, la question, c'est au fond de comment plaire sans détourner, sans séduire. C'est-à-dire, c'est sur le statut du plaisir lui-même que, au fond, le débat s'engage. C'est-à-dire, tous les peintres et tous les écrivains de théâtre, etc. Racine le disait, le but principal de l'art est de plaire. Hein, il n'y en a pas d'autre. Enfin, la règle principale de l'art est de plaire. Donc, on sait très bien que la peinture doit plaire. Ça, c'est vraiment, c'est l'idée cicéronienne de l'art qui infuse tout le XVIIe siècle. Maintenant, la question, c'est le statut du plaisir. Donc, oui, le modèle platonicien est important, mais il est contrebalancé quand même par un modèle aristotélicien qui est très fort, justement, qui, d'une certaine manière, est plus fort que le modèle platonicien. C'est-à-dire cette idée qu'il faut définir un art par des caractères qui lui sont propres. Et donc, ce n'est pas tant la question du plaisir, c'est la question, au fond, comment dissocier le plaisir de la séduction. On le voit très bien chez un peintre comme Philippe de Champaigne, qui est un immense coloriste, puisqu'il a été formé à l'école flamande, et qui essaie justement de travailler cette distinction entre une couleur chatoyante. C'est-à-dire, le risque de la couleur, c'est toujours l'excès, le trop. C'est tout d'un coup, à un moment, ça va basculer et... Mais Diderot le dira aussi, enfin on le dira jusqu'au XXe siècle. À un moment, il y a quelque chose qu'on ne peut plus maîtriser, pour revenir à la magnifique chanson de Trenet que je ne connaissais pas. Et puis à un moment, on peut se perdre dedans, alors que le dessin est beaucoup plus de l'ordre de la maîtrise.
Mais c'est là où on en revient au critère de la vérité. Vous insistez sur le plaisir, certes, mais est-ce que une des autres notions, d'un autre critère qui est en jeu, n'est pas celui de la vérité en défendant le dessin, la logique est à l'œuvre dans le dessin. On maintient une certaine conception de vraisemblance vis-à-vis de ce que l'on va reproduire. Or, la couleur, elle, semble nous conduire dans un domaine, on parle du danger, du risque de la couleur, qui ne ressemble à rien, en tout cas qui ne ressemble à rien de nommable, avec un certain langage ou une certaine expression verbale. C'est peut-être là aussi que se situe le danger de la couleur.
Oui, c'est-à-dire que le risque de la couleur, c'est au fond de nous écarter du caractère de la définition représentationnelle de la peinture. C'est toujours l'idée, au fond, que, alors là, c'est le modèle aristotélicien, que la peinture doit représenter l'histoire, ce qu'Aristote appelait le mutos. Il ne parlait pas de la peinture, mais du théâtre, enfin, peu importe. Et que, effectivement, et que cette histoire, elle se représente par le dessin, donc c'est la fonction narrative du dessin, et que par rapport à ça, la couleur joue principalement sur des effets. Mais paradoxalement, la ressemblance au réel est beaucoup plus du côté de la couleur que de la peinture. Donc on a là, c'est pour ça, par exemple, quelqu'un comme Roger de Pile, qui est le grand théoricien du coloris au XVIIe siècle, va faire l'éloge d'un sculpteur qui travaillait avec de la cire, parce qu'il fait l'éloge de la ressemblance, comme s'il y avait une sorte d'opposition entre théorie de la représentation, qui serait plus du côté du dessin, théorie de la ressemblance, qui serait plus du côté de la couleur. Et après, ça va basculer, alors cette fois-ci, du côté d'une couleur non représentative ou non figurative.
Supposons maintenant que nous sommes endormis et que toutes ces particularités, à savoir que nous ouvrons les yeux, que nous branlons la tête, que nous étendons les mains et choses semblables, ne sont que de fausses illusions. Et pensons que peut-être nos mains ni tout notre corps ne sont pas telles que nous les voyons. Toutefois, il faut au moins avouer que les choses qui nous sont représentées dans le sommeil sont comme des tableaux et des peintures qui ne peuvent être formées qu'à la ressemblance de quelque chose de réel et de véritable, et qu'ainsi, pour le moins, ces choses générales, à savoir des yeux, une tête, des mains et tout un corps, ne sont pas choses imaginaires, mais réelles et existantes. Car les peintres, lors même qu'ils s'étudient avec le plus d'artifice à représenter des sirènes et des satyres par des figures bizarres et extraordinaires, ne peuvent toutefois leur donner des formes et des natures entièrement nouvelles, mais font seulement un certain mélange et composition des membres de divers animaux. Ou bien si peut-être leur imagination est assez extravagante pour inventer quelque chose de si nouveau que jamais on n'ait rien vu de semblable, et qu'ainsi leur ouvrage représente une chose purement feinte et absolument fausse, certes, à tout le moins, les couleurs dont ils les composent doivent-elles être véritables. Dans la première méditation que Descartes utilise ou fait référence à la couleur comme étant un rempart de la vérité, alors même qu'il fait une expérience de rêve pour essayer de tout mettre en doute et de voir ce qu'il reste du réel dès lors que l'on peut douter de tout. Et c'est cette convocation de la couleur comme étant le signe d'une vérité que l'on ne perd pas, y compris dans le rêve, qui traduit ce renversement dont on parlait tout à l'heure, entre une conception, disons, platonicienne, où la couleur est du côté du faux, de l'illusion, et une conception qui va ensuite pouvoir s'accommoder, voire revendiquer la couleur comme étant le critère de la vérité. Il est frappant de voir que c'est chez Descartes qu'on trouve cette phrase. Dans la première méditation, même si on l'a lu une dizaine de fois, ce terme-là de couleur donne une nouvelle perspective sur ce texte.
Oui, je préfère employer le terme de réalité que de vérité ici, hein, même si la distinction n'est pas toujours aisée à faire. C'est un texte absolument magnifique qui renvoie à la conception cartésienne de l'imagination qui combine à partir du réel. Et ce qui est passionnant, c'est qu'au fond, ce qui est magnifique dans ce texte, c'est qu'après avoir éliminé tout ce qui relevait du réel et que le doute, justement, met en suspens, il bute contre quelque chose, et ce contre quoi il bute, c'est quelque chose qui reste. Hein, c'est ce reste. Et ce contre quoi il bute, c'est cette muraille de peinture dont parlera Fraenhofer dans la nouvelle de Balzac, à savoir la couleur, qui est le dernier élément de réalité qu'on ne peut pas mettre en cause. Donc ce que je trouve très intéressant dans ce texte de Descartes, c'est vraiment cette idée au fond d'un reste, d'une butée, qui est une butée du réel, du matériel. Et ça, c'est aussi la caractéristique essentielle du discours sur la couleur et de la difficulté à parler de la couleur, parce que ça, c'est un lieu commun depuis l'Antiquité, et qu'on ne peut pas distinguer de ce risque de la couleur dont vous avez parlé. Ce lieu commun, c'est que la couleur, on ne peut pas en parler, on ne peut rien en dire, parce que c'est pas on peut pas en faire une description, c'est quelque chose qui ne relève pas de la narration. On peut décrire ses effets, on peut dire qu'elle est brillante, etc., mais on ne peut pas en parler. Hein. Et ça, je crois que c'est extrêmement important, parce que si on ne peut pas en parler, c'est précisément en raison, c'est une des explications qui a toujours été donnée, c'est en raison de sa matérialité. Hein. C'est-à-dire comment parler de ce qui est sensible, de ce qui est purement matériel, donc de ce qui échappe à toute distinction, classification, etc., ce qui relève du silence. Il y a cette si belle phrase de Francis Ponche, je crois que c'est dans le texte sur Fauterie, il dit « Nous sommes les otages du monde muet hein. ». Il dit « Peintre », si je me souviens bien de la phrase, il dit « Peintre, te voici à la noce des huiles et des céruses et des huiles colorées. Hein. » Et effectivement, il y a quelque chose qui est de l'ordre du silence ici, et qui met au défi la logique analytique, la logique du discours, la logique rationnelle.
Ce qui rend le texte de Descartes extrêmement problématique, puisqu'il fait quand même de la couleur une qualité seconde.
Absolument.
C'est-à-dire mouvante, sensible. Or là, il s'en sort comme étant le critère ultime de la vérité.
Absolument. Oui, oui. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Et c'est ce qui explique que... Mais c'est précisément parce que Descartes s'inscrit encore dans une problématique qui est celle de la distinction entre qualité seconde et qualité première, hein, quantité et qualité, ce qui est d'ordre essentiel et d'ordre accidentel, et que c'est cette distinction qui va être entièrement bouleversée par la révolution newtonienne, dont je sais qu'on vous parlera,
dont on parlera demain,
et qui fait que la couleur ne sera plus du tout perçue comme une qualité, ne sera plus définie comme une qualité seconde, mais ce sera tout à fait une toute autre conception de la couleur. Ce que je voulais simplement ajouter par rapport à ce risque et cette difficulté à parler de la couleur, qui était vraiment une caractéristique, des propriétés qu'on lui a attribuées, il me semble important, parce que je crois que sinon on passe à côté de quelque chose d'essentiel, qui est la différence entre le discours sur la couleur en général, tel qu'on le trouve chez Descartes, par exemple, ou chez d'autres théoriciens ou philosophes, et le discours sur la couleur en peinture. Hein. Parce que la couleur en peinture, ce n'est pas la couleur, en tout cas au XVIe, XVIIe, c'est le coloris. Hein. Et que cette distinction entre couleur picturale et couleur naturelle, couleur de la nature et couleur de la peinture, me semble tout à fait essentielle, puisque l'une des réponses que les défenseurs du coloris ont apportées immédiatement à ceux qui les attaquaient au nom du dessin, chez les Italiens comme chez les Français, c'est de dire, mais attention, la couleur en peinture n'a rien à voir avec la couleur de la nature telle qu'elle sort du tube. Elle suppose une élaboration, un travail, une conception, quelque chose qui relève d'une science, justement. Hein. D'où la distinction en italien entre colori et colorito et la distinction en français entre couleur et colori. Hein. La couleur, c'est ça se broie, hein, c'est ce qui plus tard sortira du tube. Le colori, c'est quelque chose qui est le résultat d'une élaboration artistique. Et donc, il me semble très important de maintenir cette distinction, y compris dans à propos de la peinture et des textes sur la peinture post-newtonien ou post-goethéen, où on reviendra à un discours sur les couleurs, hein, et notamment sur les couleurs fondamentales, le jaune, le gris, le bleu, etc., mais où on maintiendra quand même cette idée que la couleur en peinture se relève d'une élaboration et pas du tout d'une distinction naturelle.
Chardin, c'est celui-ci qui est un peintre. C'est celui-ci qui est un coloriste. Il y a au salon plusieurs petits tableaux de Chardin. Ils représentent presque tous des fruits avec les accessoires d'un repas. C'est la nature même. Les objets sont hors de la toile et d'une vérité à tromper les yeux. Celui qu'on voit en montant l'escalier mérite surtout l'attention. L'artiste a placé sur une table un vase de vieille porcelaine de la Chine, deux biscuits, un bocal rempli d'olives, une corbeille de fruits, deux verres à moitié pleins de vin, une bigarade avec un pâté. Pour regarder les tableaux des autres, il semble que j'ai besoin de me faire des yeux. Pour voir ceux de Chardin, je n'ai qu'à garder ceux que la nature m'a donnés et m'en bien servir. Oh, Chardin, ce n'est pas du blanc, du rouge, du noir que tu broies sur ta palette, c'est la substance même des objets. C'est l'air et la lumière que tu prends à la pointe de ton pinceau et que tu attaches sur la toile. Après que mon enfant aurait copié et recopié ce morceau, je l'occuperai sur la raie dépouillée du même maître. L'objet est dégoûtant, mais c'est la chair même du poisson, c'est sa peau, c'est son sang. L'aspect même de la chose n'affecterait pas autrement. Monsieur Pierre, regardez bien ce morceau quand vous irez à l'académie et apprenez, si vous pouvez, le secret de sauver par le talent le dégoût de certaines natures. On n'entend rien à cette magie. Ce sont des couches épaisses de couleurs appliquées les unes sur les autres et dont l'effet transpire de dessous en dessus. D'autres fois, on dirait que c'est une vapeur qu'on a soufflée sur la toile. Ailleurs, une écume légère qu'on y a jetée. Rubens, Berghem, Greuze, Lutherbourg vous expliqueraient ce faire bien mieux que moi. Tous en feront sentir l'effet à vos yeux. Approchez-vous, tout se brouille, s'aplatit et disparaît. Éloignez-vous, tout se recrée et se reproduit.
Vous avez distingué Jacqueline Lichtenstein d'un côté la couleur, disons, des philosophes et la couleur des artistes, un peu comme le dieu pascalien, il y a le dieu des philosophes et puis le dieu des croyants. La couleur des philosophes, ou ce que peuvent en dire les philosophes, c'est un concept en réalité dont ils parlent, alors que la couleur de l'artiste est faite de matière. Et ce texte de Diderot, qui est tiré du Salon de 1763, qui vient d'être interprété par Georges Clès, qui est un hommage à Chardin, au peintre Chardin, insiste sur cette dimension matérielle de la peinture. Le texte est très très riche, il y a beaucoup de choses, notamment la façon dont le spectateur est happé par le tableau, comment le tableau lui-même interpelle le regard du spectateur, mais il insiste sur cette dimension matérielle. Il dit « l'objet est dégoûtant, mais c'est sa peau, c'est son sang, c'est la substance même des objets que l'on voit ». On n'est plus ici dans une question de représentation de la nature, d'imitation, mais au contraire de création à proprement parler, de quelque chose de nouveau.
Alors, vous avez raison, et paradoxalement, ce texte de Diderot, qui est un texte absolument magnifique, insiste sur... Enfin, il y a toute une rhétorique de l'illusion. Hein. Il dit c'est la substance même des objets. Alors, c'est une rhétorique très chère à Diderot, qu'il utilise très souvent, mais qui est vraiment une manière de rendre hommage, au fond, à la peinture. Diderot n'a jamais cru un instant que c'était un vrai pâté ou un vrai verre de vin. Bon. Mais vous avez raison, ce qui est absolument magnifique dans ce texte, c'est le fait que ce texte, qui insiste sur la le coloris. Hein, et la première phrase est à cet égard significative, puisqu'on voit bien que pour Diderot, peinture et coloris sont synonymes. Un peintre, c'est d'abord un coloriste. Ça veut dire aussi que historiquement, les coloristes ont gagné dans le combat contre les rubénistes ont gagné dans le combat contre les poussinistes au XVIIIe siècle. Alors, il est intéressant quand même de noter que cet éloge de la matérialité et du coloris se fait à propos d'une nature morte hein, et de Chardin. Parce que la nature morte, c'est précisément ce genre de peinture où l'objet représenté n'est pas très intéressant. D'ailleurs, c'est une question qui a été posée, par exemple, qu'on trouve chez Dubos, où il dit, mais pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à la nature morte ? Qu'on s'intéresse au portrait de Louis XIV, on peut comprendre, parce que Louis XIV est intéressant, ou à la fuite en Égypte, parce que l'histoire est intéressante, mais des pommes, des raisins, ça n'a aucun intérêt, un bœuf écorché encore moins. Hein. Et puis, il y a la très belle phrase de Pascal qui joue sur l'ambiguïté du mot vanité. Vous savez, quelle vanité que la peinture qui attire l'admiration par la ressemblance des choses dont on n'admire pas les originaux. Alors qu'il joue justement sur l'ambiguïté du mot vanité, puisque vanité désigne une nature morte symbolique. Donc, effectivement, le fait que le plus bel éloge de Diderot, parce qu'à mon sens, c'est le plus beau texte de Diderot sur la peinture, concerne Chardin et donc des natures mortes, est intéressante, puisque c'est à propos de la nature morte, on ne peut rien, on ne peut pas décrire, on ne peut pas raconter d'histoire, on est obligé de parler de la peinture. On n'a pas le choix. Je veux dire, on ne va pas s'extasier devant la beauté d'une cruche ou d'un pâté. On ne peut que s'extasier devant la beauté de la peinture. Et c'est ce que disait déjà Dubos dans ses réflexions sur la critique au début du XVIIIe siècle. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à la nature morte ? Parce que là, on est obligé de s'intéresser à la peinture. On n'a pas le choix. Hein. Alors, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la fin. Ça, je veux dire, sur laquelle je voudrais quand même insister un instant, parce que c'est magnifique, enfin, cette fin où il dit, on dirait une vapeur qu'on a soufflée sur la toile, dont l'effet transpire de dessous en dessus. Hein. L'effet transpire de dessous en dessus. Hein. Comme s'il y avait un dessous, hein, comme s'il y avait un dessous de la peinture, alors qu'il n'y en a pas, il n'y a rien d'autre. Mais ce qui est extraordinaire, c'est la phrase de la fin. Approchez-vous, tout se brouille, s'aplatit et disparaît. Reculez-vous. Je cite de mémoire, tout se reconstruit ou se recompose, puisqu'au fond, ce que reprend ici Diderot, en lui donnant une forme absolument inédite, c'est cette problématique de la distance du spectateur à l'égard du tableau, hein, de près, de loin, approchez-vous. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on s'approche ? Ben, quand on s'approche, on voit de moins en moins l'image représentée et on voit de plus en plus la peinture. Et quand on est très près, eh ben, on ne voit plus l'image, on ne voit plus des cruches, on ne voit plus le Christ, on ne voit plus Louis XIV. On voit des taches de couleurs, on voit ce que Balzac appellera une muraille de peinture. Et quand on se recule, peu à peu, l'image se reconstitue. Et donc, la problématique dessin-couleur réapparaît ici, mais l'opposition dessin-couleur, dans une problématique de la distance, c'est-à-dire de près, on voit la peinture, et de loin, on voit l'image, et c'est cette question qui sera reprise, mais même par quelqu'un comme Richard Wolheim, quand il parle de la double dimension de la perception. Est-ce qu'on peut voir en même temps l'image et la peinture ? La peinture étant du côté de l'informe. Hein. Quand on est prêt, on ne voit plus les formes. Hein. Alors que de loin, on voit les formes des objets.
En peinture, je ne comprends pas qu'on puisse parler d'une couleur. En peinture, il n'y a pas une couleur. Il n'y a que des rapports. Et même quand on a affaire à une toile monochrome, eh bien, ce qui compte, ce sont les rapports que cette toile-là entretient avec ce qui l'entoure. C'est toujours une question de relation. Quand on parle du noir, c'est vrai, bon, c'est le noir. Mais ce qui compte, ou on parle du rouge, au fond, je ne sais pas ce que ça veut dire. Le rouge, c'est une chose abstraite. Or, la peinture, c'est quelque chose de concret. Et quand on regarde un rouge, ou un noir, ou un bleu, c'est toujours la relation qu'il y a entre cette couleur-là et les autres qui l'entourent ou qui lui sont juxtaposées qui compte. Et une couleur devient picturale que dans la mesure où elle entre dans ce système, si vous voulez, de relations qui n'est peut-être pas pensé comme un système par le peintre, mais qui est quand même un ensemble de relations entre des couleurs, et je devrais ajouter entre des formes, parce que qu'est-ce que c'est que le noir ? C'est toujours une couleur avec une forme, et indissociablement liée à cette forme. Et d'ailleurs, un jaune n'est pas le même jaune s'il est dans un triangle ou dans une étoile que s'il est dans un cercle, dans un rond. Enfin, un disque jaune n'est pas du même jaune qu'une étoile jaune.
La couleur devient picturale que dès lors qu'à partir du moment où on rentre dans un système de relations. Dit Soulages, hein, c'était en 1970. On a là ici une autre façon de parler de cette, ce caractère multiple de la perception face à un tableau. Le texte de Diderot, vous le disiez, hein, éloignez-vous, rapprochez-vous, la perception change, on n'a pas la même image. Soulages va plus loin, il dit que la couleur elle-même ne devient picturale, donc n'a de sens dans un tableau, que dès lors qu'on l'associe à d'autres choses qui dépassent le tableau.
Absolument. Alors, d'une part, ça, les peintres l'ont toujours su. On ne l'a pas théorisé, mais les peintres l'ont toujours su. Hein. Je veux dire, ils savent très bien qu'un rouge à côté est mélangé à d'autres couleurs ou à côté d'autres couleurs produit d'autres effets. Simplement, alors, c'est là où ce que dit Soulages et qui est très beau renvoie à un discours moderne sur la couleur, hein, un discours moderne sur la couleur, c'est-à-dire un discours qui s'élabore essentiellement à la fin du 19e siècle, hein, c'est sur l'idée de contraste, de rapport, de relation, c'est-à-dire l'idée, mais peut-être qu'on en parle, vous en parlerez peut-être demain, parce que c'est vraiment lié aux théories post-newtoniennes et notamment à Chevreul, hein, c'est l'idée au fond que le rapprochement, qu'il n'y a pas de couleur isolée et que c'est le rapprochement des couleurs qui fait naître d'autres couleurs, hein, et des couleurs même, alors cette idée absolument magnifique, qu'au fond, la couleur que l'on voit n'est pas forcément une couleur peinte, mais une couleur que l'on perçoit du fait du rapprochement de certaines couleurs. C'est comme ça que quelqu'un comme Huysmans dira que la grande leçon de Delacroix, c'est d'avoir appris au peintre à peindre la couleur absente de la palette, c'est-à-dire à peindre une couleur que l'on voit, mais qu'il ne peint pas, hein, comme la rose absente de tout bouquet, de Mallarmé, hein, mais que l'on voit parce qu'elle naît du rapprochement des autres couleurs. Donc, pour revenir à ce que dit Soulages, je crois que c'est très important. Le noir, le rouge, etc., c'est des mots qui, pour un peintre, ne veulent rien dire. Ça n'existe pas. D'abord parce qu'il n'y a pas de noir, enfin, il n'y a pas de blanc. Je me souviens, je crois que c'était l'année dernière, l'exposition Monet, j'étais absolument impressionnée. Si on regardait de près la masse de couleurs qu'il y a dans un blanc de Monet, hein, il y a du rouge, Donc blanc, noir, c'est des catégories du langage qui nous aident à nous repérer dans le monde. Mais c'est vrai que si vous parlez avec un peintre et que vous lui dites c'est rouge ou c'est noir, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a des distinctions extrêmement fines. Et par ailleurs, alors ça c'est l'autre point sur lequel insiste Soulages, c'est que la couleur est un jeu de rapport, enfin née d'un jeu de rapport, et que un noir est dans une forme. D'abord, ce que Soulages met aussi en cause, et ça aussi c'est un discours moderne sur la couleur, c'est l'opposition entre couleur et dessin, c'est-à-dire dessin-forme. Hein. Il n'y a pas de couleur indépendamment d'une forme. Et puis c'est surtout l'idée qu'il n'y a pas de couleur isolée. Hein. Il n'y a pas de couleur isolée qu'un noir. Alors d'abord, l'idée que le noir est une couleur, ça c'est la grande idée qui vient de Matisse. Hein. C'est une phrase de Matisse, le noir est une couleur. Hein. Et non pas une absence de couleur comme le blanc. Hein. Et puis c'est surtout l'idée au fond qu'il n'y a de couleur qu'en relation à d'autres, hein, dans un champ, dans un ensemble. Et ça, c'est ce que toute la peinture explorera, pour reprendre ce que dit Huysmans, à partir de Delacroix, hein, essentiellement.
Mais si de la couleur, on ne peut rien en dire, pourtant, déjà, on arrive à en dire quelque chose, puisqu'on est quand même en train de faire une émission dessus, et beaucoup de personnes en ont parlé. La couleur fait sens, pourtant, elle exprime quelque chose. Et cette idée d'insérer la couleur au sein d'un système pour que celle-ci devienne picturale, c'est donc non seulement qu'il y a différentes façons pour la couleur d'être, ça vous l'avez dit, la couleur de la nature et la couleur du tableau, mais aussi que la couleur est tributaire de critères qui ne sont pas seulement esthétiques, mais également physiques, et physiologique, et si bien qu'il y a comme une logique des couleurs qui est à l'œuvre. Donc on peut saisir quelque chose de la couleur, c'est toute la question d'ailleurs de la philosophie de l'art. Hein. Qu'est-ce que la philosophie peut dire de l'art sans réduire l'art à son propre régime de concept? C'est toujours réducteur. Et pourtant, on arrive quand même à susciter, à éveiller le sens que la couleur elle-même induit en nous par la parole. Les deux domaines ne sont pas aussi hermétiques que ça.
Absolument, absolument. Et d'ailleurs, la couleur, ou le coloris, enfin, peu importe ici, a toujours été caractérisée par son pouvoir expressif et donc par les effets qu'il pouvait produire. C'est ce qui fait, à mon sens, que... enfin, le discours le plus adéquat sur la couleur en peinture depuis la, enfin, à partir de la Renaissance, c'est un discours sur les effets et pas sur la peinture elle-même. Ce qu'on voit chez Diderot, mais ce qu'on voit chez Roger de Pile, ce qu'on voit chez, alors chez, au 19e siècle, ça change un petit peu, mais c'est un discours sur les effets. C'est-à-dire qui, et c'est pour cela aussi qu'il me semble que ceux qui parlent le mieux de la couleur, ce sont les écrivains ou les poètes, que le texte de Baudelaire, qui s'appelle sur les phares, où il parle de Rubens, oreiller de chair fraîche, où l'on ne peut, je ne sais plus, Rubens, fleuve d'oubli, jardin de la paresse, oreiller de chair fraîche, où l'on ne peut aimer. Personne n'a parlé de ce que les Italiens appelaient la morbidezza de la couleur, hein, c'est-à-dire ce côté oreiller de chair fraîche où l'on ne peut rêver parce que c'est que de la peinture quand même. Et donc je crois que c'est par ce discours indirect, qui est le discours de la poésie, qui est le discours de la littérature, qu'on approche de la couleur. Alors juste un mot, si j'ai eu le temps, sur cette question du discours sur la couleur. Ce qui me semble aussi important de noter ici, c'est que la couleur, et c'est une des raisons pour lesquelles cela... c'est inépuisable et une des raisons pour lesquelles ça m'a toujours tellement intéressée, c'est que la couleur est sans doute de tous les objets picturaux, enfin de la réflexion sur l'art, celui qui relève le plus d'approches multidisciplinaires. Le physicien a des choses à dire sur la couleur, le chimiste a des choses à dire sur la couleur, le restaurateur a des choses sur l'historien de l'art, évidemment, le philosophe, l'astrophysicien, l'ingénieur, etc. Donc c'est vraiment, et d'ailleurs j'appartiens à un groupe de recherche, enfin, de travail comme ça, où tous ces gens-là se réunissent, et on se réunit dans un endroit merveilleux qui s'appelle Roussillon, dans les montagnes d'ocre, hein, justement. Et je crois que ce qui est très exceptionnel dans le cas de avec la couleur, c'est que je ne connais aucun autre objet où les scientifiques, les philosophes, les littéraires puissent se retrouver, parce qu'au fond, c'est un objet qui est susceptible de multiplicité d'approches, y compris dans le cas de la peinture, puisque à partir du 19e siècle, il y aura des textes de physiciens, des textes scientifiques qui parleront de la couleur picturale en des termes tout à fait nouveaux.
C'est très simple, la couleur n'existe pas.
Ah.
Pour moi. Elle est en vous. Ou elle n'est pas. La couleur, c'est le sang du peintre. Alors celui qui n'a pas le sang, ben, il ne doit pas être peintre. Ou il n'est même pas être un individu. C'est un peu raciste ce que je dis. Mais la vie est raciste aussi. La vie est tellement extraordinaire qu'on est obligé de la regarder sans rien dire. C'est tellement beau. Il n'y a pas d'explication. Erreur, la couleur n'a pas d'explication. Si je mets un vert et un bleu, c'est pas un vert et un bleu.
Et qu'est-ce que c'est alors ?
J'en sais rien. C'est une projection de ce qu'elle peut faire. C'est tout. C'est qu'il y a un certain jansénisme dans la couleur. On vous met la couleur sur le dos, ou on ne la met pas. Bon. Alors si vous ne l'avez pas, qu'est-ce que vous allez faire ? Si vous avez la force d'avoir en vous du sang suffisant pour projeter quelque chose, alors à ce moment-là, vous arrivez à la couleur. Mais sinon, on n'y arrivera jamais. On ne peut pas inventer. Hein, c'est ça que je voudrais faire comprendre. C'est que la peinture, la couleur ne s'invente pas. Elle est là ou elle n'est pas.
Lorsque le peintre Jean Messager parle de la couleur, Jacqueline Lichtenstein, Jean Messager qui a essayé de dépasser l'opposition entre figuration et abstraction, il en parle comme de la grâce divine. D'ailleurs, il prend l'exemple du jansénisme. La couleur n'existe pas. On l'a ou on l'a pas, c'est dans le sang. Et d'ailleurs, quand on l'a, c'est un fardeau. C'est un vocabulaire religieux.
Oui, oui, et puis c'est un vocabulaire religieux. Alors, ce qui est en écoutant, je ne connaissais pas évidemment cet enregistrement, c'est qu'en fait, il retrouve l'idée de Descartes, c'est-à-dire que c'est une sorte de dernier rempart de la réalité, c'est-à-dire qu'on le prend, on prend. La couleur existe, on l'invente pas. Oui, alors la couleur peut aussi se prêter, alors ça c'est partie des multiples approches possibles de la couleur, peut se prêter aussi à une approche de type mystique, très spirituelle, parce que la couleur en tant qu'expression, la couleur va, au 19e siècle, la couleur va être caractérisée comme l'expression de la subjectivité, avec une analogie avec la musique, justement. Hein. Et la couleur, le coloris, peu importe ici, en tant qu'expression de la subjectivité, va se prêter à un nouveau type de discours, qui est un discours quasi mystique, parfois spiritiste même, ou des idées post-goethéennes, mais je ne veux pas parler de Goethe parce qu'il en sera question demain, hein, vont se mélanger à des approches plus spécifiquement picturales. Ça. Et c'est vrai que la couleur s'est toujours prêtée à cela, en raison aussi de ce caractère qu'on a toujours prêté à la couleur, d'être mystérieuse, de ne pas très bien savoir comment ça fonctionnait, quels effets ça produisait, et puis surtout parce que depuis l'Antiquité, c'est toujours intéressant de voir comment perdurent et se transforment des lieux communs, lieux communs n'étant pas péjoratif évidemment ici, depuis l'Antiquité, la couleur est associée au hasard, c'est-à-dire quelque chose qui échappe à la maîtrise. Donc on jette sur une toile et puis d'un coup, ça marche, la tâche. Et donc, précisément parce que ça échappe à la maîtrise, ça a été toujours caractérisé comme ce qui échappait à la maîtrise, on peut comprendre qu'elle ait pu être investie, au fond, de tout un discours de type très, enfin, quasi mystique ou spirituel.
Mais c'est ce que ce témoignage de Jean Messager donne bien entendre, le caractère double et paradoxal de la couleur. D'un côté, la couleur, qu'on nomme à tort, la couleur, d'ailleurs, les couleurs ont un caractère infini, la combinaison entre les couleurs est infinie et donc sont le lieu d'une création sans fin pour l'artiste. Et en même temps, c'est toujours un poids puisque la couleur s'impose à l'artiste. Il doit composer avec. C'est son outil, c'est tour à tour un outil et une arme qui se retourne contre lui-même. Et c'est assez émouvant d'entendre un artiste là qui essaye de parler de son rapport à la couleur comme quelque chose qu'il subit. C'est pas sa vocation qu'il subit, c'est la couleur. On y entend aussi l'idée d'un don, d'un talent, d'un quelque chose de l'ordre du génie qui vient s'imposer à nous. On ne choisit pas si on a la couleur dans le sang ou pas. Cette dimension-là est proprement artistique, créatrice.
En tout cas, c'est celle de Messager, qu'on a la couleur dans le sang. Ce qui est très intéressant aussi, c'est cette idée au fond que l'artiste n'a pas le peintre n'a pas le choix, c'est-à-dire l'idée de contrainte. Tout artiste travaille avec des contraintes. L'écrivain, il choisit pas les mots. Il doit travailler avec les contraintes et trouver des combinaisons nouvelles ou des formes nouvelles. Je m'excuse de citer encore Huysmans, de la même manière que l'écrivain, le peintre doit forger des néologismes de couleurs. Je crois que c'est ce qu'il dit ça à propos de Degas, qu'il a formé de nouveaux néologismes de couleurs, trouver une nouvelle syntaxe, etc. Mais donc il travaille à partir de quelque chose. Alors c'est vrai que la science aujourd'hui, la chimie permet aussi, l'acrylique, etc., des couleurs qui n'existaient pas auparavant et des combinaisons nouvelles. Ce que je veux simplement dire, c'est que la couleur, c'est pas seulement des combinaisons, bien sûr c'est infini du point de vue de la combinaison, mais c'est infini aussi parce que la capacité de faire voir des couleurs qui ne sont pas représentées. Ça, je crois que c'est absolument très important, ces couleurs de l'œil. I'm a blue-peered Picasso stuck on a wall in the middle of a hall in Barcelona trying to figure out how to get down. 'Cause this solitude is bringing me down. The paintings around me, they don't understand me. I'm a bit too early, I'm seen as development during adolescence.
Merci beaucoup Jacqueline Eisenstein d'être venue nous parler de couleurs aujourd'hui. Je renvoie les auditeurs à deux de vos ouvrages, La couleur éloquente qui était disponible en Flammarion, en champ Flammarion, mais à notre connaissance, dans l'équipe de Nouveau Chemin, quand on a voulu travailler dessus pour cette émission, on ne le trouve plus, donc j'en appelle à une nouvelle édition car c'est un livre vraiment, vraiment merveilleux. Extrêmement bien écrit, vous parlez aussi bien que vous écrivez, c'est rare d'ailleurs Jacqueline Eisenstein, donc je vous remercie. Et l'autre ouvrage qui s'appelle La tâche aveugle, essai sur les relations de la peinture et de la sculpture à l'âge moderne, qu'on trouve chez Gallimard. Out in open air, away from the latest, the Japanese tourists.
Et puis je profite des quelques secondes qui me restent pour vous inviter, chers auditeurs, à venir assister à l'enregistrement de 4 émissions en public ce vendredi 11 janvier, 4 émissions qui auront pour but de préparer les étudiants en terminale à l'épreuve de bac, l'épreuve de philosophie au bac, pardon. Donc je recevrai 4 professeurs et leur classe de terminale pour corriger, préparer ensemble des sujets de dissertation et des explications de texte. Toutes les informations sont en ligne sur le site de France Culture. Vous écoutez France Culture, justement, les nouveaux chemins de la connaissance. Il est 10h50, c'est l'heure de retrouver François Nudelman pour le journal de la philosophie. Bonjour François.
Bonjour Adèle. Comment un groupe humain se définit-il comme peuple ? Faut-il qu'un des siens ou un législateur extérieur lui donne son identité ? La figure de Moïse donne à penser ces questions politiques et Bruno Carsanti revient sur ce personnage biblique avec un détour par Freud dans « Moïse et l'idée de peuple » paru au Cerf. Bruno Carsanti, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, philosophe. Alors en quoi Moïse, figure religieuse, donne-t-il à penser la constitution d'un corps politique ?
Bien, je crois que l'intervention mosaïque, si elle apparaît évidemment comme la figure de la révélation, et donc si elle renvoie plutôt à un passé théologique, nous oblige à concevoir la façon dont un peuple se réfère à sa propre loi, reçoit sa propre loi. Et cette question de la réception de la loi par un peuple qui la reconnaît comme sienne, la figure mosaïque l'a incarnée, l'a rendue pensable, jusque très tard, au fond, dans notre tradition de philosophie politique. Mon livre part de la lecture que Rousseau donne de la figure du législateur dans le contrat social, oui, où Moïse occupe une place éminente. Et je crois que ça n'est pas simplement un rappel à un passé archaïque. Je crois que ça témoigne de la possibilité de faire jouer à Moïse un rôle crucial dans la fondation de la politique moderne.
Oui. Alors lequel ? Parce qu'effectivement, c'est ce que vous montrez dans votre analyse. On n'attend pas la religion civile pour interroger dans le contrat social la figure de Moïse. Mais faut-il passer par cette référence à une figure transcendante et religieuse ?
Alors justement, c'est là que la référence freudienne, oui, m'a servi à mieux lire ce qui, dans Rousseau, cherche à se formuler. De toute façon, chez Rousseau même, l'intervention du législateur, son rapport à la transcendance est très ambigu. Hein. Oui. Est-ce qu'il est un imposteur ? Non, au sens où il agit pour le bien du peuple. Est-ce que ce sont des pieux mensonges ? Non, il dit bien une vérité de la politique. En même temps, on a l'impression, et je pense que c'est le sens du propos rousseauiste, qu'il intervient à un niveau qui est celui de l'écoute de la loi. Hein, il ouvre dans le peuple la possibilité d'entendre quelque chose qui sera sa loi.
Oui.
Voilà. Alors, à partir de là, évidemment, il agit à un niveau que je crois être l'inconscient du peuple. Et c'est cette strate que le texte de Freud, que l'analyse freudienne permet d'interroger.
Oui. Vous posez la question de la fondation. Alors précisément, qu'en est-il des Hébreux et de la fondation du peuple juif ? Mais qu'en est-il des Hébreux avant Moïse ?
Les Hébreux avant Moïse, que dans mon livre j'ai appelé les proto-juifs, une catégorie que j'ai dû inventer parce que hébreu, l'étymologie du mot hébreu est tardive et donc ne permet pas de l'appliquer à ce que seraient les juifs sortis d'Égypte. Hein. C'est de cela qu'il est question.
Parce
avant.
Qu'ils suivent quand même la loi sans la connaître.
Voilà, ils suivent la loi sans la connaître, ils la subissent. Ils la subissent d'abord d'un grand homme qui est un grand Égyptien, hein. Puis dans le récit freudien, ils ne la supportent plus, ils la renversent. Et néanmoins, en eux s'est déposée, alors en eux, dans une certaine partie du peuple, s'est déposée une mémoire qui va agir, elle, comme fondation. Pour répondre directement à votre question, en fait, la fondation, elle ne vient pas au début. Hein. Elle est celle de l'histoire telle qu'elle se déroule sur une temporalité très longue. Et au fond, la fondation, dans le schéma freudien, je crois que c'est assez juste pour penser la fondation d'une loi, elle a besoin d'une chaîne humaine qui est celle que j'essaye de retracer entre les Lévites, hein, justement ceux qui gardent cette première mémoire, les prophètes et les rabbins en tant que ceux qui assignent la loi à ce qui doit être lu.
Oui. Et alors en même temps, ce sont des mœurs, ce sont des vies singulières qui sont prises dans cette législation. Alors est-ce qu'il faut penser l'existence politique à partir de la société, du peuple, de son souci de la justice, de ses mœurs, ou bien ne pourrait-on pas se contenter en quelque sorte d'une législation qui s'en tiendrait aux institutions ?
C'est exactement le point conceptuel que j'ai voulu éclaircir. Mon livre est un livre sur le passage de la société au peuple. Plus exactement, mon livre essaye de caractériser le moment où une société se conçoit comme un être politique dans l'histoire. Le mot « peuple » étant, je crois, ce qui très tôt a servi à nommer ce passage. Alors, ça pose plusieurs questions assez compliquées. Première question, effectivement, vous avez raison, qu'en est-il des mœurs sociales, hein, ou des régularités sociales qui tissent la vie culturelle de la société? Qu'est-ce que le moment politique fait de ce matériau? Comment est-ce que de ce matériau se détache une identité politique? Ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'on ne peut pas s'en tenir à un vis-à-vis externe entre les mœurs et la loi. On est obligé de réfléchir à des façons d'articuler intérieurement la loi aux mœurs. Voilà. Et évidemment, le schéma freudien offre, je crois, une grille d'analyse extrêmement efficace pour penser ce passage.
Alors, si on compare le judaïsme au christianisme, on se dit que dans le christianisme, on a affaire plutôt à une communauté et pas à un peuple, à l'adoption d'une parole d'amour, qui n'est pas conditionnée à l'appartenance à un peuple. Et est-ce que ça ne résonne pas aujourd'hui dans l'ambiguïté qu'il y a avec l'emploi du mot « peuple » qui revient ou qui tourne à l'ethnie?
Vous avez raison. C'est sciemment que j'ai choisi de mettre le mot « peuple » dans le titre de mon livre et de faire tourner toute l'analyse autour du mot « peuple ». Parce que je crois que c'est un mot que nous avons à la fois beaucoup de mal à employer et dont nous voyons bien que nous ne pouvons pas nous débarrasser. Au fond, on est très mal à l'aise pour utiliser la catégorie de peuple dans des discours politiques contemporains. On est mal à l'aise parce qu'on l'ethnicise avec une aisance suspecte et que lorsqu'on ne l'ethnicise pas, on le nationalise avec là aussi une aisance qui peut prêter à interrogation. Alors moi, ce que j'ai voulu faire, c'est justement essayer de dégager un sens du mot peuple qui ne le ramène pas à une continuité biologique et qui ne le ramène pas non plus à une identité nationale, du moins si on n'inscrit pas quelque chose à l'intérieur du concept de nation, hein, qui est de l'ordre d'une dualité. Vous savez, le récit freudien repose sur deux Moïse, hein, et pas un. Et pas seulement sur deux Moïse, mais sur deux peuples, et pas un. Celui justement des Hébreux ou des proto-juifs qui venaient d'Égypte, et ce peuple de Madianites rencontré dans le désert avec lequel un pacte ou un compromis est scellé. Et c'est la façon dont cette dualité est parvenue à se régler qui a fait paradoxalement la dureté, la résistance, la durabilité de ce qu'on appelle les Juifs. Alors, je crois qu'à l'aide de ces outils, le mot « peuple » devient d'abord moins suspect, et peut-être qu'on peut revenir à ce qu'est l'identité d'un peuple en politique avec une lumière nouvelle.
Merci beaucoup, Bruno Carsanti. Je rappelle le titre de votre livre, « Moïse et l'idée de peuple » paru au CERF. Vous pouvez retrouver et télécharger le journal de la philosophie sur le site de franceculture.fr.
Merci beaucoup François. Les nouveaux chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain pour la fin de cette semaine consacrée à la couleur. Demain, c'est le philosophe Maurice Elie qui viendra nous fournir le prisme et le nuancier nécessaires pour comprendre la théorie des couleurs de Goethe, à partir de l'optique de Newton jusqu'aux critiques que lui adresse Schopenhauer. Tout un programme, mais vous verrez, c'est passionnant. « Et d'ici là, si vous voulez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous y trouverez les indications bibliographiques et musicales concernant l'émission du jour. Et surtout, vous pourrez la télécharger, la podcaster, afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et une autre façon de réécouter l'émission, c'est de vous rendre sur un réseau social que vous connaissez tous, où Les Nouveaux Chemins ont une page, Les Nouveaux Chemins de la Connaissance, une page officielle, où vous y trouverez tous les jours, sont mises en ligne tous les jours, les émissions diffusées quotidiennement par l'équipe des Nouveaux Chemins.